L'espace s'aplatit. Tout devint présent. Tout devint au présent. Sans plus de profondeur de champ. Vinrent les professionnels. Il y eut la HD, la 3D et des images de misère noire. Nous traversons impassibles des pixels.
Violette et Torios.
Figures amoindries. Rire carnassier.
Violette et
Torios. Nous traversons impassibles des pixels. Putréfiés. Pixels de victoire.
Victoire.
Pixels de jeunesse.
Victoire.
Pixel de victoire, pixel de jeunesse, que nous traversons. Putréfié.
Victoire.
Pétrifié. Faubourg Guelin, figures amoindries, rire carnassier.
Victoire.
Pixel de victoire. Pixel, pixel de victoire, pixel de jeunesse, que nous traversons impassibles. La nuit putréfiée. Chien, chien d'entre les chiens, chien, chien, chien d'entre les chiens, émasculé. Pixel, pixel de victoire. Que nous traversons. Pixel de jeunesse.
Jeunesse victorieuse.
Pixel de jeunesse.
Victoire.
Pixel de victoire. Pixel
jeunesse.
De sang. Pixel de sang. Pixel.
Jeunesse.
Pixel. Que nous traversons impassibles. Pixel. Pixel de victoire. Pixel de jeunesse. Pixel de sang.
Ainsi, à l'aide d'une petite caméra pourrie, il s'agit d'une petite caméra que je me remets à utiliser du fait des excellentes limitations qu'elle propose en matière d'image-son. J'aurais tenté de me resituer dans le vaste marasme, par nécessité de l'image, image donc mémoire.
Et ces deux, tu peux rappeler ?
Zoher.
Zoher Mefti.
On t'entend pas très bien.
Ok.
Alors, ce qu'on voit à l'image, en fait, c'est en boucle, c'est une vidéo prise au téléphone portable de l'assassinat de Kadhafi, où on le voit sur un capot de voiture ensanglanté, comme un clown désarticulé. Et c'est une image qui a fait le tour des journaux télévisés, le tour d'Internet, et voilà. Du coup, il interroge le pixel à partir de cette vidéo qui tourne en boucle. Et c'est un peu à la Godard, c'est-à-dire qu'il y a cette vidéo en boucle et on le voit lui dans une pièce sombre en train de, en direct, dire ce texte. La révolution numérique est terminée. Alors, Julien Girardot, est-ce que ça t'évoque quelque chose ?
À dire que le numérique est partout et que c'est devenu plus de la communication que de l'expression, peut-être ? Mais je n'ai pas vu le film, je l'ai entendu. Ce que le son m'en dit me laisse assez perplexe. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque du numérique pour avoir eu envie de le montrer ce soir, de le donner à entendre ?
Pixel de victoire, pixel de jeunesse, pixel de sang. C'est-à-dire que le pixel, composante de nos images numériques, est reproductible à l'infini, et tout le monde peut filmer le pixel. Et le pixel est partout. Et le pixel est réutilisé par les grandes chaînes de télé, comme par un amateur, et les images circulent comme ça. Et on est noyé dans ces pixels. Et du coup, comme il n'y a jamais eu autant d'images et jamais eu autant de pixels, comment on se situe par rapport à ces pixels ? Et du coup, cette émission, c'est peut-être ça, c'est comment on se situe par rapport aux pixels ? Toi, Julien, qui a quand même une expérience du pixel plus approfondie.
Alors, je suis plus manipulateur de pixels que producteur de pixels, donc je suis monteur. Je suis venu au cinéma par la photo, donc par la chimie d'abord, l'argentique. Et moi, je vis le numérique dans une génération qui a été une des dernières à vivre cette transition, quoi, à la fois dans ma pratique et dans ma formation aussi plus académique, puisque j'ai fait une école. Un brevet de technicien supérieur. Mais moi, je viens de la chimie et du labo noir et blanc dans la salle de bain, des produits, quelque chose de tactile, de sentir comment une lumière fait réagir à une matière. Et qu'avant les pixels, il y a eu des grains de sel d'argent, quoi. Et ça... je veux surtout ce soir éviter une espèce de nostalgie de l'analogique ou du photochimique. Ou... Je ne suis pas du tout là-dedans, mais il faut définir un peu ce qu'est le numérique et ce que ça englobe. Dans effectivement tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on produit.
Je te coupe, Julien, mais l'idée effectivement... Sans parler de ce que tu dis, c'est-à-dire de regretter finalement une matière qui n'existerait plus. En l'occurrence, on imagine la possibilité de pouvoir disposer de plusieurs matières. Donc c'est est-ce que dans ce que tu dis, c'est encore la possibilité d'utiliser cette matière ou plus la possibilité d'utiliser cette matière. En tout cas, on ne parle pas de nostalgie si on a encore le choix d'utiliser une matière. Alors, en l'occurrence, on commence à ne plus avoir le choix d'utiliser différentes matières.
À un certain niveau du cinéma commercial, oui, effectivement, maintenant, ce n'est plus un choix. J'ai assez halluciné d'apprendre cette année que Spielberg et Christopher Nolan, qui a fait le dernier Batman, montent encore en pellicule. Je pensais que c'était complètement disparu à Hollywood, mais en fait, il y avait encore des derniers dinosaures qui se battent encore pour ça.
Paul Thomas Anderson aussi.
J'allais le dire, ouais, je cherchais la... dont le dernier film a été tourné en 70 mm en pellicule, mais il ne sera pas exploité en 70 mm, ou les réalisateurs qui ont fait ces films dans les années 70-80, Baraka, vont sortir un nouveau film qui s'appelle Samsara, toujours tourné en 70 mm, et eux, donc qui ne sera pas non plus exploité en 70 mm en salle, mais en numérique 4K, et parce qu'ils se sont trouvés satisfaits des résultats qu'ils pouvaient obtenir par rapport à la projection 70 mm. Et eux, dans leur pratique du numérique a posteriori, par exemple pour créer la version numérique du film Baraka pour sa sortie en Blu-ray, ils ont utilisé des techniques pas du tout utilisées habituellement, c'est-à-dire à numériser le négatif avec des méthodes de scan photo, donc image par image en 8K, en très haute résolution, donc qui impliquait des traitements numériques extrêmement lourds, parce qu'à la fin, même sur un Blu-ray en résolution un peu moindre, on retrouvait ce piqué de l'image originale retraitée dans la meilleure qualité possible. Donc on crée des ponts comme ça entre des gens qui sont allés au bout du meilleur d'une technologie, qu'une technologie pouvait leur amener en matière de création d'images, les meilleurs à tout point de vue qu'on peut obtenir, et pour transmettre aussi ce que l'industrie propose maintenant en termes de technique, propose ou même impose plutôt. Ça a créé des différences de pratiques. Pour la projection 70 mm, on n'a plus l'image qui peut sembler vacillante ou une lumière qui est un peu inégale sur la totalité de l'écran. On a une image qui est... On n'aura pas de vieillissement des copies, parce que une salle de cinéma qui va récupérer un fichier sur un disque dur d'une copie, après qu'elle ait été exploitée par d'autres cinémas, cette copie n'aura pas été usée comme pouvait l'être une copie 35 mm exploitée. Et donc ça touche tous les niveaux du cinéma, qui est une chaîne, donc de la production des images, la création au moment du tournage, ensuite la post-production, donc, qui comprend le montage des images.
Alors justement, Julien, avant d'aller...
On mourra guéri !
Ouais, avant d'aller plus loin dans le... sur ce terrain-là, en fait, j'aimerais quand même dissocier, enfin, si on peut dissocier en fait en deux voies cette utilisation du numérique. Il y a à la fois, puisqu'on disait qu'aujourd'hui les spectateurs, enfin ceux qui vont en salle la plupart du temps, ont du mal à percevoir la différence qu'il peut y avoir aujourd'hui entre un film qui sort en numérique et un film qui était en 35 mm. Et
ils s'en foutent.
Voilà, ou alors en tous les cas. C'est les retours un petit peu qu'on a, mais par contre, il y a l'utilisation du numérique et l'utilisation encore de différents autres supports en matière de création cinématographique. Donc, est-ce qu'on peut réagir là-dessus en quoi ça bouleverse aujourd'hui la création cinématographique d'utiliser le numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, pour des créateurs, des cinéastes, on a encore accès, on continuera à avoir accès à différents supports? Est-ce qu'il faut abandonner l'idée effectivement d'utiliser l'argentique définitivement? Est-ce qu'on peut...
Il y a quelque chose qui est intéressant, notamment dans le travail de Zoer, qui est la basse définition. Et chez Godard, il avait dit ça une fois. Il avait dit je vais utiliser des caméras basse définition. Je ne cherche pas la haute définition, je cherche la basse définition. Et on dit le numérique, la diffusion en salle, le 4K, mais par exemple, il y a la webcam. Enfin, ce qui se passe au niveau de l'image numérique sur Internet, c'est pas du tout exploité en termes de création. Enfin, mais quand on voit toutes les images qui sont produites sur les webcams, c'est du cinéma. Enfin, on peut vraiment faire du cinéma avec ça. Du coup, oui, le numérique peut être riche pour la création, mais il faut s'en emparer. Et c'est vrai que c'est ingrat.
Poème partition K, le quotidien. Passe 1, 2 et 3.
On maîtrise pas.
Pourquoi on maîtrise pas ?
Et pourquoi on maîtrise pas ? Parce que c'est des technologies compliquées. Avec des brevets aussi, sûrement, j'imagine.
Là, je vous parlais de la grosse industrie cinématographique, mais on a tous ici une expérience du cinéma hors industrie, hors Paris. Dans des pratiques complètement différentes qui ne sont pas celles de l'exploitation, de la fiction. Et donc, il y a toute la création numérique qui touche à l'art contemporain, l'art vidéo.
La fiction aussi, je veux dire.
Oui. Qui ont exploité justement toutes ces techniques-là, des supports légers, des images détournées, des flux numériques. Via Internet, et donc il y a tout un pan aussi d'une création qui n'est pas visible souvent autre part que sur Internet. Il y a la webcam donc, qui va être uniquement autogénérée, numérique de A à Z pour le coup, sans traitement, un mec s'enregistre avec son ordinateur, c'est directement uploadé sur YouTube ou retravaillé, ou ça crée un flux direct. Donc ça crée aussi un espèce de mythe aussi numérique, de quelque chose, une technologie omnipotente qui peut tout. Qui peut tout générer dans un flux permanent des gigas qui sont uploadés chaque seconde sur YouTube. Mais est-ce que c'est de la création de matière, c'est de la création de numérique, parce que c'est des 1 et des 0 qui s'accumulent sur des serveurs stockés partout dans le monde. Après, on a un besoin de définition de ce numérique-là. Qu'est-ce que ces 0 et ces 1 ils nous racontent. Donc je sens un peu ça dans le film de Zoher aussi au début. On a ce flux, ces images reconstituées, ces actualités, ce bout du monde qui nous est transmis. Donc c'est du cinéma, c'est du mouvement, c'est des histoires. Ça prend des tas de formes possibles via une technologie. Maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte ? De quoi on est spectateur là, à cet endroit-là, sous ces différentes formes ? On est spectateur, on consomme. À un moment, on va aller chercher des choses, on va nous les proposer. On est dans des circuits de diffusion complètement autonome, ou des circuits de l'art contemporain, ou des circuits de l'exploitation cinéma en salle, ou la télévision qui va proposer d'autres formes. Donc tous ces flux-là, ils ont des formes très différentes qui nous touchent tous différemment. Mais
la question de ces flux-là aussi, c'est la question économique. Tous les flux sur Internet, l'économie, elle est très faible. Enfin, il y a quelques pubs sur les vidéos YouTube, mais il y a pas d'économie de production presque, ou il y en a très peu, ou c'est en train de se chercher. L'économie, elle est sur la télévision, elle est sur les sorties en salle. Du coup, où il y a de la recherche, c'est où il y a de l'argent aussi, peut-être. En tout cas, c'est ce qui est visible. Et c'est vrai que toutes les images qui sont faites sur Internet...
C'est pas forcément le cas. Hein. C'est pas forcément là où il y a de l'argent qu'il y a de la recherche.
Oui, hein, mais en tout cas, c'est là où il y a une visibilité. Des médias, une attention...
Y a toute une visibilité qui échappe à ça, et qui est la visibilité qui passe par Internet. Enfin, je veux dire, on n'a pas...
Il y a beaucoup plus d'images qui sont faites, qui sont vraiment réfléchies.
Enfin, oui, mais enfin, est-ce que la cannibalisation des images n'est pas plus importante je dirais à la télévision que sur Internet? Est-ce qu'aujourd'hui un film d'un auteur qui passe sur la télé n'est pas plus bouffé ou perturbé que ce qu'il est, ce qu'il peut l'être sur Internet, vu le chaos que représente la télé?
Là, ce qui va se passer pour la télé, ce qui va être intéressant, il y a Google qui vient de sortir avec Sony, je crois, une télé connectée. Bon, pour l'instant, je crois que les chaînes TF1, M6 ont refusé de proposer leur programme sur cette télé. Mais c'est-à-dire que ce sera une télé reliée à Internet avec un disque dur. Et du coup, on pourra faire notre propre programme entre YouTube, Arte, ils vont diffuser leur programme. Et on ne sera pas obligé de regarder la télé, les annonces publicitaires des chaînes de télé. Et on ne sera pas obligé de suivre la grille de la télé. Et on pourra faire notre propre grille. Et ça, c'est ce qui va se passer à un moment. C'est que tout ce flux qui a été fait sur Internet, il va se retrouver à égalité sur une télé avec le flux des grandes puissances de médias comme TF1. Et ça, je pense qu'ils ont peur, les grands médias.
En tout cas, ils cherchent.
Ils arriveront toujours à la caler. Après, il y en a une partie qui ira dans la poche de Google et peut-être moins dans la poche de TF1. C'est surtout ça qui leur fait peur. Mais
toi, ce que tu disais par contre, c'est que sur la télé, il y allait avoir la HD qui allait être obligatoire.
Le format HD va être imposé pour toute la diffusion, ouais, donc ça pose une question en termes de programmation de films peut-être plus anciens. Il y a des catalogues entiers d'auteurs moins connus qui ne sont pas dans les priorités du patrimoine à numériser. Qui vont se retrouver sur la touche parce qu'ils n'ont déjà pas eu forcément des diffusions télé faramineuses. Mais comment, Il y a des fonds de subvention pour numériser les œuvres qui vont aider, mais il y aura toujours un choix qui se fait sur les priorités données. Donc le CNC a des fonds de soutien à la numérisation, mais ça va être des questions de priorité. L'INA archive en masse l'histoire de la télévision. Toujours, il y aura un pan de l'histoire du cinéma qui va être mis de côté, parce que dès sa production, dès son exploitation, il aura été dans des circuits parallèles. Donc ça, on lui donne moins de valeur immédiatement, parce que on crée une obsolescence programmée de dire il faut sauver, tout va disparaître, il faut numériser à tout prix. Mais on crée aussi une hiérarchie dans cette démarche de numérisation. Donc il y a des auteurs moins connus. Donc récemment, je travaillais avec Jacques Rosier, dont les films sont extrêmement peu diffusés. À un moment, qui a eu des difficultés de production pour fabriquer ses films, pour en avoir les droits, pour récupérer même les éléments. À un moment, si ces films-là doivent être remasterisés en HD, je pense qu'il aura énormément de difficultés pour que ça se fasse. Quoi.
Ouais, est-ce qu'il puisse être visible un jour?
Parce que transformer un signal, ça coûte cher?
C'est pas une question de signal, c'est pas juste un signal. On passe pas du... Là, il faut rescanner le négatif, le retravailler, le réétalonner. C'est pas juste passer à la moulinette et hop, il nous sort un film en HD.
Mais transformer une image de webcam en image HD, par exemple, ça coûterait rien.
Oui, mais à la base, c'est une image de webcam. C'est une mauvaise résolution qu'on va gonfler. C'est artificiel. Gonfler du côté d'Orouette, qui a été tourné en 16 mm, ça donnera pas le même effet une fois en haute définition que des pixels agrandis pour donner de la HD artificielle. À ce niveau-là, les techniques anciennes, les formats un peu inférieurs techniquement restent encore en qualité brute supérieure au format pas terrible d'aujourd'hui. C'est pas ça tellement le coût qui est important. Donc numériser un film, numériser, restaurer pour qu'on ait un master correct, donc c'est pas juste un travail mécanique, c'est un travail aussi de réinterprétation, puisque le film à son époque a été étalonné d'une certaine façon. En numérique, il faut repartir aussi d'une nouvelle interprétation avec les images qui vont sortir de cette numérisation. Ça a donné des exemples où, dernièrement, la ressortie en Blu-ray des films d'Hitchcock, il y a plein de gens qui ont hurlé parce que les couleurs n'étaient pas du tout fidèles à ce qu'ils en avaient vu. Parce qu'il y a une réinterprétation de l'étalonnage et que quand on repart du négatif, on réinterprète à quoi le film ressemble. Et c'est pas un procédé purement technique. On peut massacrer un film comme ça. Et sur plusieurs des films d'Hitchcock, il y a eu ces critiques-là. Et puis des trucs complètement idiots, mais des coquilles dans les génériques. Ils reconstituent les génériques. Et au final, il y a des fautes d'orthographe, des trucs un peu aberrants. C'est anecdotique, mais si à un moment dans le circuit, il y a un stagiaire qui fait mal son travail, on se retrouve avec les films d'Hitchcock dont le générique de fin ne correspond pas à l'original que tout le monde a vu et revu. Donc ça, c'est un exemple. Et si ça arrive à Hitchcock, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des merdes techniques sur énormément d'autres films, quoi. Mais c'est quand même, il y a un moment, on reste dans une exploitation. On ne fait pas des bourrées juste par amour du cinéma pour sauvegarder les films ou pouvoir les rediffuser sur Arte pour assez peu de monde finalement qui va le regarder. Mais on cherche avant tout une rentabilité et à vendre des DVD ou des Blu-ray à des gens, quoi. Et cette rentabilité-là, elle reste dure à trouver. Et le système français repose sur une perfusion du CNC qui va fournir des aides sélectives, mais avec une grosse difficulté qui fait qu'il y a un fort pourcentage de films en salle qui ne sont pas rentables. Et un système français qui repose sur une perfusion de la télévision. Donc c'est la télévision qui va décider de quels films se font en partenariat avec le CNC. Donc on est sur un système de à la fois de la création à la diffusion, où les contraintes technologiques et numériques viennent aussi rentrer dans cette espèce de système économico-artistique industriel qui fait qu'à plein d'endroits il y a des vulnérabilités. Donc les Américains, eux, ils ont trouvé un fonctionnement qui date des débuts d'Hollywood, qui sont des grosses machines de guerre qui font de l'entertainment pour un public qui va être prêt à payer parce qu'il veut du grand spectacle. Et à côté de ça, des films indépendants qui reposent principalement sur des fonds privés. Aux États-Unis, c'est souvent pour un film moyen, 4 ou 6 millions de dollars, ça va être un ou deux mécènes qui vont dire ben, voilà, je mets ça de ma poche et le film il va se faire. Et c'est le cinéma indépendant américain vit comme ça. Il n'y a pas de centre national de la cinématographie aux États-Unis, il n'y a pas de subvention. C'est un moment, un pari sur un gars qui va investir et qui est à l'américaine et qui va se dire à un moment je peux m'y retrouver mes billes, ou j'adore Tarantino et j'ai envie qu'il fasse des films, donc je lui donne de l'argent. Peut-être que je ne vais pas m'y retrouver, mais peut-être que oui. Et maintenant, la rentabilité d'un film se fait plus seulement sur l'exploitation en salle, mais ça va être justement après sur le DVD, parce que les délais de disponibilité ont été raccourcis, sur la vidéo à la demande via Internet et toutes les télés connectées et machin. Le cycle de vie des films est à la fois plus rapide et plus étalé dans le temps, avec des modes de consommation différentes. Donc, là, on voit très vite qu'on peut tout mélanger et faire le tour du monde assez rapidement.
J'aimerais, moi, Julien, qu'on revienne sur cette histoire de matière aussi. Enfin, on parlait tout à l'heure des pixels. Et peut-être que... Enfin bon, moi, il y a un truc qui me pose question, c'est... on utilise aujourd'hui des outils comme le GH2 donc qui sont orientés vers une qualité de définition de plus en plus haute. C'est la même chose sur ce qui concerne les moyens de diffusion aujourd'hui en salle, avec le 2K, le 4K, bientôt le 8K, etc. Bref, il y a une course comme ça en avant. À la haute définition et la sur-haute définition. Qu'est-ce qui, enfin, toi, dans ta création, David, qu'est-ce que tu recherches finalement? Enfin, je veux dire, tu utilises, moi, je l'ai pas encore utilisé, mais tu utilises ce genre de d'appareil pour filmer. Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu vas, enfin, je veux dire, tu vois, tu parles de matière, tu parles de pixels, tu parles de matière. Là, t'es sur un truc. Bon.
J'ai utilisé en repérage. Déjà, le côté positif, c'est que c'est tout petit et qu'on peut l'avoir toujours sur soi et qu'on peut travailler une image avec vraiment... il y avait un texte de Astruc sur la caméra stylo. Là, on est vraiment dans une caméra stylo. Après, pour des tournages à la main, c'est compliqué parce qu'il y a une espèce de calcul de l'image, ce qui fait que le premier plan ne bouge pas de la même façon que l'arrière-plan. Et on peut vite avoir une impression d'une image pas naturelle. Enfin, c'est-à-dire que ça, la compression ne fonctionne pas d'un bloc, j'ai l'impression. Enfin, si c'est fixe, ça marche bien. Si c'est sur pied, c'est très bien. Mais dès que ça bouge, eh ben, ça fout le camp. Ça...
Alors, tu t'es retrouvé à quel endroit, toi? Sur la portabilité essentiellement, ou sur qu'est-ce que l'image te renvoie de nouveau, ou qu'est-ce qui te séduit dans...
Non, mais c'est pour ça que je te dis que sur le tournage... Je pense pas que je l'utiliserai, parce que c'est
une question de sensation là. On en revient à des sensations physiques d'un outil entre les mains et de ce qui te procure, de ce qui te procure pas au moment où tu produis une image.
Et le rendu aussi. Moi c'est
le rendu quand tu le vois au moment du tournage ou quand tu le visionnes.
Non, quand je le visionne après.
quand je le visionne après.
Dans le mouvement essentiellement.
Ouais, dans le mouvement. Quand l'image bouge, enfin si j'ai la caméra à la main et que je suis quelqu'un comme ça, et ben je sens que ça fout le camp derrière. Et ça fait bizarre parce que, enfin le cinéma que j'essaye de faire, c'est en tout cas un rapport à une forme de réalité qui se produit devant soi. Et en fait, on regarde les images après, c'est presque des images de synthèse, enfin que j'ai vues. Du coup. Je ne m'y retrouve pas vraiment.
Bon, le cas du GH2, il faut le préciser, c'est un appareil photo. Ce n'est pas à la base une caméra. Il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'il y a quelques années, je crois que c'était au festival Visa pour l'image de Perpignan de photojournalisme.
C'est un appareil qui s'achète dans le commerce, enfin tout le monde
peut l'avoir. Pour un millier d'euros et quelques, quoi, donc ce n'est pas très cher.
Même pas 800 maintenant.
Donc, ouais. Il y avait une légende urbaine qui courait dans le milieu de photojournalisme comme quoi l'évolution technique des caméras vidéo allait être rapidement les capteurs allaient être rapidement tellement bons que les photojournalistes allaient être remplacés par les caméramans des agences de presse qui feraient des photos avec leurs caméras. Et donc il y a eu un peu cette rumeur là, c'était donc et en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi un peu pour dire qu'il ne faut pas trop essayer de jouer les Cassandres ou essayer de faire des prévisions, parce que souvent, rien ne se passe comme prévu. Mais donc, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que les fabricants ont sorti des appareils photo qui permettaient de filmer en haute définition, de très bonne qualité, et avec un type d'image qui sortait vraiment de ce que donnait la vidéo pur jus, les caméras vidéo Sony et compagnie. Ça donnait une image un peu plus photographique, plus proche du cinéma, quoi.
Parce que là on est finalement pas dans un choix tellement artistique, mais finalement j'ai un peu l'impression qu'on se piège soi-même dans une espèce de chaîne. Peut être un choix artistique, mais il y a aussi l'effet chaîne à la fois réalisation, production, diffusion, qui quand même tend vers ça, c'est-à-dire vers la haute définition. Donc malgré soi, on est quand même dans une espèce de courbe où on se dit que il faut se diriger vers la haute définition parce que je dirais que la chaîne va dans ce sens-là. Non,
c'est sûr qu'il y a. Parce que même les salles de cinéma sont en train de bazarder leur projecteur 35. Du coup,
si tu fais du 16 mm, au final, si tu veux qu'il soit vu, il faut faire une copie numérique.
Voilà.
2K, un DCP qui va pouvoir passer partout.
Là, il y a une anecdote de Marguerite et le Dragon par Raphaël Popperboard et Jean Laude, c'est ça? Voilà, qui a été tourné en HI8, des formats VHS vraiment.
En VHS-C, ouais, donc ouais, encore
VHS Super 8.
Très amateur, qui a été gonflé en 35. Et là, pour le sortir en salle, ils vont faire un DCP en numérique.
Ouais, enfin, c'est le oui, parce que c'est effectivement, ils sont tombés en plein dans cette période-là aussi.
Oui,
c'est le truc, mais en tous les cas, est-ce qu'aujourd'hui, à partir de tu veux continuer à filmer en pellicule? Imagine, tu filmes en Super 8. Est-ce que ta matière, tu continues de la garder, je dirais, visible encore avec une copie DCP en sortie?
C'est devenu une norme, donc. À savoir qu'elle pourra passer dans tous les systèmes qui correspondent à cette norme, qui est la norme d'exploitation maintenant dans toutes les salles dans le monde. C'est devenu un langage mondial. Effectivement, la question de la préservation, elle se pose toujours, parce que ça reste un fichier, et un fichier, il a un support physique qui n'est pas forcément stable, qui va être des disques optiques, une carte mémoire ou un disque dur. Et on ne sait pas quelle est leur durée de vie à très long terme. Mais pour en revenir aux outils, donc, parce qu'on, tu dis pourquoi on veut faire de la HD, c'est juste parce que c'est mieux. Nous tous, notre génération de trentenaires...
En quête de cinéma.
On a un peu fait le tour de la DV, il y a eu des très bonnes choses et ça a permis, ça a été la première étape de où le numérique a vraiment permis d'avoir une vidéo... bon marché et à la fois de bonne qualité. Mais On se retrouvait rapidement quand on voulait kinescoper du DV pour en faire une copie 35. C'était pas, les résultats n'étaient pas faramineux. Quoi. Là, avec ce qu'on tourne, il y a énormément de longs métrages qui ont été tournés. Donc, la première caméra, appareil photo, c'était le Canon 5D Mark II, donc, qui s'est vendu comme des petits pains et qui a donné beaucoup de longs métrages qui ont été tournés comme ça. Produit, post-produit en numérique.
Poème partition K, le quotidien. Passe 1, 2 et 3. Rien aussi peu chez nous de sable au même, difformément l'un, jeudi Sam, le jour ni vous ni vous, nick, mais comme tic et manette, mais oui, mardi au même, clavier bordereau, credit rive et credit classant, classé, droit d'irrive, en plus patati agar, participe uniforme, jeudi formément hier, uniforme avant tis, ce geste, jour lui ni moins, qui égale.
Si, à une époque, à la Renaissance, le pigment qui donnait tel bleu était très rare et on n'en trouvait plus, et ben il n'existait plus. Et il fallait faire autrement et trouver un autre bleu. Quoi. Et peut-être que c'était le pigment secret qui faisait le cœur de l'œuvre du maître, mais tant pis, il fallait passer à autre chose. Quoi. Donc là, on peut. Pour moi, je n'ai pas l'impression qu'on est dans une destruction totale. À savoir que encore aujourd'hui, il est, si on le veut, il est assez facile de tourner en 35. Si on veut toucher une diffusion le plus large possible, on va sortir une version numérique, sachant qu'on pourra aussi le diffuser en 35 mm dans pas mal d'endroits, si on y tient. Que...
Sauf que les fabricants de pellicules arrêtent.
Là, ils arrêtent, effectivement. Ça,
donc, on ne pourra plus.
J'allais y venir. Donc, à Fuji a annoncé l'arrêt de la pellicule
cinéma. Non, mais c'est ça aussi, Julien, parce que quand on dit variété de support, ça veut dire qu'à un moment donné, une économie qui a imposé en fait, donc, l'arrivée du numérique, ok, super, parce qu'effectivement, on dit qu'il y a un nouveau langage qui arrive, etc. Bon, même si ce n'est pas un support, il y a voilà, est-ce que ça aussi supprime pas tu parlais de palette ou pour un peintre qui a accès encore au fusain, à tout ce qu'il veut pour faire ce qu'il a envie de faire, dessiner ou peindre. Un cinéaste aujourd'hui, est-ce qu'il pourra continuer à avoir ces différents supports, ces différentes matières? C'est aussi là.
Je pense qu'il faut quand même voir qu'on a beaucoup de chance aussi d'avoir ces outils-là. Enfin, je pense pour ceux qui, les vieux cinéastes qui ont toujours travaillé avec du matériel très lourd, très cher, qui nécessite beaucoup de personnes, maintenant on peut vraiment, pour peu, c'est plus une question économique presque de faire des films. Enfin, on peut faire des films qui même peuvent rivaliser par leur image avec. Enfin, le GH2, ils ont fait un test là, ça vaut 800 euros.
Et je crois que envoyé.
Ouais, ça arrive à égalité avec des caméras.
Ouais, techniquement, ils ont fait un test en aveugle avec des professionnels,
des chefs op,
du public, Coppola, voilà. Et ils ont donc une même équipe qui a tourné avec différentes caméras de référence, dont la grosse fameuse Red, Alexa. Et au milieu des grosses bécanes, le GH2, ce petit appareil photo, donc qui vaut, je crois, 1500 euros.
Ah, je suis là.
professionnel, techniquement, pour une exploitation sale, sans problème, quoi. Un coût qui défie toute concurrence en termes de prix technique. Mais il y a aussi, donc, il y a une démocratisation des moyens techniques réels, parce que c'est quand même assez accessible de pouvoir s'acheter un petit appareil photo, des cartes mémoire, des bons objectifs pas trop mauvais, et d'aller faire un film avec assez peu de moyens si on trouve des gens de bonne volonté pour le faire. Donc il y a eu des exemples comme ça. Il y a un film qui est sorti en salle qui s'appelle Donoma de Jean Carénard, où ils ont dit le film a coûté 150 €. Donc c'est à faire, d'accord, parce qu'il l'a fait avec des amis, avec des comédiens, des techniciens bénévoles, de l'énergie, tout ça, avec une caméra numérique. Mais le film, pour qu'il sorte en salle, il a fallu un peu plus de 150 €. Donc faut faire attention au mythe aussi de la démocratisation facile, parce que derrière les 150 € pour arriver au film dans son ordinateur, il a fallu que le film sorte de son ordinateur, qu'il soit étalonné, mis en DCP, distribué, et ça coûte un peu plus que ce que le film a coûté à fabriquer réellement, quoi. Mais ok, qu'il existe, qu'il y a un fichier, mais après, pour l'exploiter, pour reprendre le vocabulaire, parce que je trouve que c'est un mot assez terrible, exploitant, hein, parce que il dit bien ce qu'il dit, il faut quand même une certaine force de frappe pour qu'un film reste soit visible par un certain nombre de gens. Pour ce film-là en particulier, ils ont fait une tournée avec un bus, ils sont allés à la rencontre du public, ils ont vraiment créé un bouche à oreille important. Et donc c'est, quelque part, c'est possible, mais je pense qu'ils ont passé 2 heures de leur vie là-dessus, ils n'en ont pas touché un rond. C'est une expérience, mais... qui est de l'ordre du collectif et qui est de l'expérience dans une salle avec un public. Donc ça pose pas mal de questions à ce niveau-là. Et l'outil, donc, pour reprendre ce truc de la caméra, donc on en arrive aujourd'hui à faire des films avec des appareils photo. C'est des appareils photo qui marchent bien, mais qui ne sont pas des outils de cinéma. On se retrouve... les nouvelles caméras RED, c'est pas, on est loin du chat sur l'épaule de Bouriala. C'est pas des caméras qui sont faites pour des opérateurs. C'est des boîtes. C'est comme un cube, la petite RED là, 5K. C'est une boîte. Il va falloir lui mettre. Donc cette boîte, elle coûte effectivement pas très cher par rapport aux autres qui peuvent faire la même qualité. Mais tout autour, il va falloir lui greffer des tas de machins, de tuyaux, de trucs, un écran, des trucs, des batteries, des disques durs pour arriver à en tirer quelque chose. Quoi. Et au final, on se retrouve avec une espèce d'usine à gaz avec des poignées, machins, qui pèsent 30 kilos et qui n'est pas plus pratique que les grosses 35. Donc, par contre, Jean-Pierre Bourviala, Datone, sa philosophie, c'est le chat sur l'épaule. C'est la petite caméra qui épouse l'épaule de l'opérateur. Et lui, il réfléchit à des vrais outils pour les gens qui font du cinéma. Donc, il y a son Nathan Penelope qui est sorti en version film il y a quelques années. Et il y a la version numérique qui va enchaîner bientôt. Donc, je pense qu'il viendra à Marseille en parler pendant la semaine asymétrique au Polygone étoilé. Et ça s'annonce comme une des meilleures caméras du monde. Et pour faire cette transition, on va vous ressortir un dialogue entre Jean-Pierre Bourviala et Jean-Luc Godard au moment de la création de la première caméra Aton 35 mm.
Mais alors attends, parce que y a...
En 1900...
Ouais, enfin, je serais content de faire le point sur, sur une chose, juste.
Moi, je précise que ce n'est pas Jean-Pierre Bourviala et,
faire le point
et Godard
sur,
qui parle. C'est une interprétation de David Lyon et Julien Gorbeix. Ah.
Alors, les gars, vous avez...
Julien, t'entends pas.
Alors, un mot. Wie klebt der Rumpfenden auf einen Robbenen als einen Haulen?
Je serais content de faire le point. Je serais content de faire le point avec cette caméra juste là. Je serais content de faire le point sur le fait que je ne peux pas faire le point. Tu m'entends pas, mon micro?
En 1979, Hatton obtient du CNC un prêt de 900 000 francs pour mettre en fabrication une caméra à miroir, réflexe, tournant, magasin 120 mètres. C'est de cette autre caméra qu'il est maintenant question.
Oui, alors moi je voudrais faire le point. Le point sur le fait que je ne peux pas faire le point avec cette caméra qui pour moi est lourde de symboles. Je t'avais exprimé cette phrase. Est-ce que le cinéma français a besoin d'une caméra? Non.
Ça continue d'ailleurs avec la tonne 35 actuelle. La saga de l'obturateur réflexe à 153 degrés est caractéristique. Un soir de janvier, sur Prénom Carmen, ton équipe a vu du flicker et critiqué ci et ça. Moi, je regardais les images, j'étais pris par l'ovale du visage et ne voyais pas les petits boutons sur le front. Ce soir-là, il s'agissait de blesser à mort cette caméra qui avait un esprit, une forme, une animalité différente. Tout était bon pour noyer le chien. Toi, tu semblais lointain et je suis parti très triste.
Non, mais ça,
ce n'est d'ailleurs pas un chien, mais plutôt un guépard. Et puis, il y a eu cette histoire de point. On ne peut pas faire le point dans le viseur. Je suis resté sidéré parce que obtenir d'un viseur qu'il donne une image nette, c'est l'enfance de l'art.
Non, mais ça, c'est trop vaste. Moi, je ne peux pas penser à l'échelon mondial. Ça, les techniciens y arrivent. Les Japonais mieux que les autres. Trop vaste.
Elle n'a pas fait à ce moment-là, et ce dont je me plains, c'est qu'en janvier, tu ne m'as pas dit « Jean-Pierre, le style du film tel que je l'ai prévu, tu ne m'as pas appelé ». Non, je me suis fait agresser sur le 153e degré, qui ne faisait pas plus de flicker en vérité, sur le niveau de bruit dans une chambre au mur lisse, alors que la caméra n'a pas été dessinée pour le son synchrone en studio, et aussi qu'elle s'arrêtait tout à coup sans avertir, de façon capricieuse, erreur de programmation d'un microprocesseur, ça, c'était justifié.
Oui, mais je m'en rends bien compte. Je m'en rends bien compte moi-même, mais je cherche à savoir d'où vient la difficulté et comment est venu le fait qu'il n'y a pas eu un projet d'ensemble, il n'y a pas eu de projet d'études, et il n'y a pas eu de projet d'études ensemble.
Ce soir-là, c'est que j'ai entendu, et d'ailleurs 8 jours plus tard, Chevreau nous respédit la caméra qu'on venait de lui livrer sans même ouvrir la caisse. La rumeur autour de Carmen à Paris, c'était que la tonne 35 était inutilisable avec les HMI.
Oui, moi je dis que ton expérience avec moi, tu la retrouves sous la forme d'une partie de tes rapports avec tes techniciens.
Je suis désolé, mais je dis non. Cette caméra est faite pour grimper sur l'épaule, ou à la rigueur sur un petit pied discret, mais elle est pensée hors des camètres. Lorsqu'on voit dans un viseur de qualité une image qui est nette, dans un plan donné, on n'a pas à vérifier avec un décamètre, mètre ou décimètre.
Mais il n'y a pas de dialogue là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conception d'ensemble, il n'y a pas de conception de qu'est-ce que doit être cette caméra, ce qui fait qu'elle bouge sans arrêt depuis 4 ans, et pourquoi ça bouge sans arrêt.
Non, à l'époque, on m'a dit ça ne correspond pas à la bague de mise au point de l'objectif. Et pas que tu faisais des plans flous.
Mais attends, enfin, on parle avec les techniciens, toi tu ne les as jamais vus. Je n'ai pas réussi à les faire venir à Grenoble. Tu les vois pas. De quoi tu parles?
Et toi tu as accepté ça, de tes diafois russes. Je suis étonné car c'est sur une caméra 35 qu'il est facile de rester maître de la conjugaison du dépoli. Bien plus facile qu'en 16 mm.
Ouais, je n'ai même pas pu, parce que vous, vous en foutez du son, faire installer le type de micro de la manière dont je pensais que ce soit bon. Sur la paluche. Alors après moi... Ciao.
C'est un problème technique, mais il a été obscurci par tellement de telles de choses qu'à certains moments, personne ne sait dire
si
eh bien, c'est à cause de cela.
Si
et quand je pense qu'il a fallu 3 ans et 3 films pour qu'on s'en aperçoive,
Si ça t'intéressait, tu l'aurais fabriqué toi-même, mais ça ne t'intéresse pas.
Si tu mets autant de temps, c'est que tu ne l'aimes pas. 3 ans et 3 films, ça te paraît long, mais quand on fait quelque chose qui est un mélange d'art et d'industrie, 2 temps courts en même temps. L'un, tiens, j'ai vu hier à Beaubourg des sculptures de Ruchriem, il fait apparaître à la fois le dedans et le dehors du même bloc de pierre. Il ouvre, puis referme à peine les entrailles du rocher pour créer un couple de même texture, proche, mais à jamais séparé. Un côté est poli, l'autre à l'état brut. Une filiation directe entre Rodin, Camille, Claudel et lui. Eh bien, tous mettent 5 ou 6 ans pour lâcher leur sculpture. Moi, j'ai besoin de faire pareil. Je trouve assez naturel que rien ne marche du premier coup. Je trouve bien de laisser traîner une caméra parce qu'on peut modifier et raffiner. C'est comme les maisons que tu as vues à Mans.
15 fois en projection.
J'ai commencé il y a 15 ans. Tous les 3 ans, je redémolis un peu et j'ajoute une aile, on change les escaliers de place.
Oui, mais les techniciens ne disent pas les choses comme moi. Ils disent les pommes de terre sont froides, ils disent nanana, nanana, vous avez tel appareil avec un paramètre. Mais quand l'image est floue, 15 fois de suite en projection.
Tu veux dire industriel, voilà l'autre temps, celui qui me rend schizo. Je vis ça toujours sur 2 temps, l'un lent et sinueux, l'esquisse d'argile attend tranquillement le fondeur, l'autre pressé efficace, rentabiliser l'invention, stabiliser trop vite la rencontre. Les maisons, j'aimerais aujourd'hui y recevoir mes amis, y dormir ce soir avec la femme que j'aime, et la caméra, tous voudraient demain matin s'en servir, mais je trouve nécessaire que cette attente dure.
Oui, oui, mais ça c'est des phrases, ça. Elle s'appelait 35-8, et qu'est-ce que c'est le 8 mm en fait ? C'est une caméra que papa a donnée à sa petite fille, et la petite fille donne au concierge, qui à son tour la donne au jardinier, qui la redonne à papa. Le cinéma, ça se fait à plusieurs, le roman, pas, la peinture, pas, la sculpture non plus.
Pourquoi on n'a pas arrêté ? Mais précisément l'industrie. À partir du moment où tu as mis le doigt là-dedans, où il y a 15 Antoniens impliqués par le 35 mm, le jackpot est lancé. Il n'est plus question de revenir en arrière. Le lent rate tout, et le pressé pense à autre chose. Il y a un moment où l'objet nous échappe un peu. C'est comme toi, quand tu as commencé ton film, par rapport à ton projet initial sur Carmen, l'objet t'a échappé parce qu'il y a eu un producteur, et Coutard, et les acteurs, et tu ne pouvais pas dire, ce tournage, ce n'est pas ce que je voulais, vous me faites chier. Tu continues. Eh bien, moi aussi, je continue.
Ouais, ouais, oui. On peut dire les choses comme ça. On pourrait les dire comme ça. Moi, je dirais plutôt là, aujourd'hui, disons. Disons que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette caméra est devenue radicale socialiste. C'est déjà quelque chose par rapport aux autres. Moi, je l'achèterai dès que j'aurai vérifié sur 10 plans que la mise au point est possible à l'œil.
Le tremblé, mais alors le plan de passion que tu as fait, toi, à la tonne, sur la trace de l'avion du soir dans le ciel, c'est celui que tout le monde préférait. Même avec 120 mètres, elle reste caméra d'épaule, pas vraiment plus grosse que la 35-8. En plus, j'ai trouvé un truc plein d'aimants pour qu'elle marche avec un obturateur à 180 degrés. Ce qui fait qu'il ne devrait plus y avoir de problème d'acceptation par les gens de pied et ceux de main. Maintenant, je crois qu'elle est achevée.
Alain Bergala, c'est quand même rare qu'une caméra soit suscitée par un cinéaste. Je veux dire, depuis Rossellini...
Godard, les caméras ont toujours été suscitées par les cinéastes, y compris celles de lumière, comme le documentaire de Langlois l'a montré, qui était peintre. Et l'appareil photographique a suscité par Charles Cros, qui était un poète, et la caméra à tonne par Boviala, qui était architecte, parce que les autres ne lui convenaient pas. Et puis ensuite, il y a eu une évolution, du fait qu'aujourd'hui, en tant que producteur, moi, maintenant, à ma place, je me retrouve simplement comme client, et que j'ai abandonné le côté partenaire officiel. Par contre, je vois la difficulté de mettre au point un objet. Alors, celui-là ou un autre ?
Non, elle est très différente quand même. Elle a gardé le côté petit animal du prototype 35-8. On peut espérer que les réalisateurs changeront de comportement quand ils auront cette caméra dans la main et près de leurs yeux, dans un rapport plus symbiotique. Ils ne devraient plus se placer comme avec les autres, aux endroits obligés. Mais c'est vrai que j'aurais voulu que la 35-8 des débuts soit portée à complétion, elle aussi, pour provoquer des films imprimés par elle, alors qu'avec les 120 mètres, c'est moins sûr. Adjanu a dû sentir que cette caméra-là, c'est pas si con sa remarque, n'était pas dessinée pour être sur un pied, une sorte de malaise à voir ce félin sur un podium, Monsieur Loyal.
Seul Génitsyne n'y frappe pas, ou que Virgile n'y frappe pas. Et là que c'est devenu, il y a une telle absence, enfin tout le monde, c'est l'Amérique, sa force, c'est la culture toujours, ça a été ça à un moment donné, l'Europe décide, et du point de vue de ce qui s'appelle les images et les sons et les médias, tout le monde a pris, je ne sais pas pourquoi, le modèle européen, même Khomeini, même que le modèle américain, pour passer une nouvelle, c'est la même chose. Il y a un équilibre écologique qui s'est rompu, que moi je sens alors prosaïquement faible, je manque de ne pas pouvoir dire du mal ou trouver complètement con un film turc, je ne sais pas, simplement parce que je n'en vois pas. Il y a un totalitarisme de la culture mondiale comme ça, il y en a plein. Bon, alors, disons, on est des grands féodaux, mais qui, ou des petits féodaux, et puis il y a le même suzerain partout, et on devient con dans notre là où on est. On finit comme Charles le Téméraire. Enfin, au mieux, tu peux être Charles le Téméraire.
Je n'avais jamais pensé à ça.
Et tu finis du reste, moi qui habite pas loin de là où il a fini, tu finis dans le lac.
Parce qu'il y a des petits détails comme ça qui sont assez tristes, y compris pour quelqu'un de ma génération. Moi je suis allé il n'y a pas très longtemps à Gennevilliers, donc une banlieue communiste, où il faisait assez courageusement un cycle soviétique. Et je me disais que c'était intéressant dans une banlieue rouge de remettre sur le tapis tout, c'est-à-dire à la fois Gorbatchev, Vertov, Eisenstein, Tarkovsky, etc. Et la seule question que les gens posaient, c'était, peu importe le film, c'était dites-nous si oui ou non ce film est caractéristique, si c'est un bon spécimen de ce que font maintenant les soviétiques au cinéma. Et des gens disaient, même des gens, donc communistes bontins, disant, on aime ce film, pas tellement parce qu'il est bon, mais parce que on en a marre de voir des films américains et c'est bien de voir autre chose. Mais ils parlaient de l'URSS comme si ça avait été les Philippines ou l'Angola, ou un tout petit pays, où après tout, par bonté d'âme, parce qu'on n'est pas... on est informé, on est curieux du monde, on voulait savoir comment ces gens-là faisaient aussi du cinéma. Et moi, je me suis mis en colère en disant, mais quand même, ce qui s'est passé en URSS avec le cinéma à un moment est capital. Ou Tarkovsky, c'est très important. Et c'est tombé dans un vide. Et j'aurais pu faire une conférence qui aurait été suivie avec passion sur le cinéma soviétique, et j'ai pas voulu, là.
On vient d'entendre Danet. Et Danet disait, dans un entretien autour de l'image de synthèse, une chose est sûre, on mourra guéri. Et j'avais lu cette phrase et ça m'avait intrigué. On mourra tous guéris. Et c'est vrai que l'image de synthèse, le pixel, il y a aussi quelque chose d'une aseptisation. Enfin, on perd la relation organique à la matière. On mourra guéri. Guéri. On mourra guéri.
Quand on sort un film en exploitation, en exclusivité, le distributeur nous reverse une contribution
pour en sortie nationale
pour le numérique. Après, cette contribution, c'est un deal entre l'exploitant et le distributeur. De manière générale, c'est 450 € par film. Mais après, en fonction de certains distributeurs, ça peut être 500, 550, ça après, c'est...
Et si j'ai bien compris, le VPF est arrivé, donc l'argument de le distributeur d'appuyer quelque chose, qui s'appelle VPF, parce qu'il n'y a plus de frais de tirage de copie pour le distributeur.
Voilà, et c'est une contribution pour l'investissement que l'exploitant a mis pour s'équiper, parce que c'est quand même pas rien, c'est 60 000 € par cabine. C'est qu'avec le numérique, avant, quand on était en 35... Justement, quand on voulait montrer des choses plus alternatives, où il n'y a que des supports en DVD et tout, techniquement, pour le projectionniste, c'était plus galère. Il y avait le vidéoprojecteur, fallait faire tous les réglages et tout. Là, maintenant, avec le scalaire, on peut passer plein d'autres formats, et c'est vachement plus pratique. Donc, du coup, il y a plus de possibilités.
Il n'y a pas que des désavantages, oui.
C'est voilà, pour le feed, par exemple.
Oui, parce que des fois, on disait, oui, mais alors techniquement, ça va être compliqué, ou machin. Maintenant, c'est vachement plus simple. Nous, on n'est pas sur Globecast, c'est-à-dire on peut tout recevoir par Internet. Donc nous, ça c'était pour les bandes annonces, pardon. Mais en tout cas, les KDM, ben, on appelle le distributeur, qui donne l'autorisation à une société, donc il y en a plusieurs, Cinego, Eclair Lab, et qui donne l'autorisation, ils ont nos numéros de serveur, chaque projecteur a un numéro de numéro de série, et ils envoient la clé par Internet sur la bibliothèque, donc le serveur central de la cabine.
Pour un temps donné.
Donc c'est soit une semaine, soit quand c'est avec les gros distributeurs, ils donnent la clé sur un mois, et sans cette clé, le film, on ne peut pas le passer. Ça, c'est impossible. Ça change quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus... Enfin, moi, je constate que c'est plus un travail de projectionniste, hein, mais c'est un travail informatique. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des shows, des playlists, gérer ce genre de choses. Mais en fait, il n'y a plus de montage de films, donc en fait, il y a beaucoup moins de travail.
Ouais, en gros, c'est arrivé un petit peu rapidement, justement, à mon avis, enfin, en tout cas, pour ma part, pour éviter cette réflexion-là. C'est-à-dire que, effectivement, les dossiers techniques ont été gérés par Anne, de l'installation qui arrivait, des devis qui devaient faire. De
climatisation des cabines.
C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 semaines, 1 mois, il a fallu recevoir des entreprises, réfléchir à la configuration des cabines, peut-être se battre un petit peu sur ce qui allait rester du 35 mm, parce que c'était une question aussi, dans la mesure où on accueille pas mal d'événements, de festivals, et qu'on sait très bien que tous les films vont pas être numérisés du jour au lendemain, et loin de là, et c'est pas le but de la manœuvre à mon avis. Donc il y a effectivement cet aspect technique des choses qui a empêché cette réflexion. La formation qui est arrivée presque en parallèle, presque même trop tard, mais du coup qui n'a pas forcément été soignée, mais pas forcément du point de vue de chez nous. C'est-à-dire que déjà au niveau de la formation en général, je pense que la réflexion n'était pas posée de la part des formateurs et de la part des gens qui ont réfléchi au numérique très en amont, pour des aspects financiers sans doute, et pour que les choses soient accueillies sans rien dire en vérité. On zappe un petit peu la valeur du travail de l'opérateur, qui est quand même le chef du navire d'un cinéma au départ, qui est celui, qui est celui par qui tout arrive et par qui tout passe, en dehors des spectateurs, etc. Et je pense qu'il y a dû avoir une frustration. Alors David peut-être va nous rejoindre tout à l'heure, il est opérateur, donc il l'a vécu concrètement. Il y a dû avoir une frustration sur leur façon de travailler et leur façon aussi de garder une place importante, parce que ça reste des spécialistes de l'image. On appuie sur des boutons, oui, d'accord, mais on peut aussi s'amuser si on est bien formé et si on a la maîtrise des bécanes, proposer des projections un peu plus soignées.
Des spots.
Encore faut-il laisser le temps de cette réflexion, pousser cette formation ou donner les moyens à cette formation financièrement d'exister un peu plus loin que là, j'allume, j'éteins et je charge les films. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le gros point. Mais c'est encore en réflexion, il me semble, parce que j'ai entendu dire, je crois que c'est le formateur là, de Marseille, là, le plus connu, là, qui expliquait justement ça, cette banalisation du rôle de l'opérateur, et qui disait, qui rappelait à l'ordre en disant aux institutions, à tous les gens qui étaient là, attention, il faudra, n'oubliez pas que le projectionniste est quelqu'un d'important dans une salle de cinéma. Plus on va banaliser sa place et son rôle et son travail, plus peut-être que les projections, elles vont en souffrir, les relations avec le film, le spectateur, etc.
Dans tous les cas, il faut un projectionniste de 13h à minuit. C'est-à-dire qu'il y a la caissière, le projectionniste, il arrive, il allume, mais il faut qu'il y ait quand même un opérateur pour vérifier. Parce qu'il ne faut pas croire, avec le numérique, il y a des bugs. Donc là, encore la semaine dernière, il y a 3 jours, en salle 2, la xénon s'allume pas. Il faut bien qu'il y ait un projectionniste qui soit là sur la petite console.
On appelle donc lui, il est capable de le gérer, ça.
Ah, mais bien sûr.
D'accord.
Ou alors, c'est son boulot. C'est en ligne qui va l'aiguiller.
Oui, c'est son boulot. Et après, du lundi, mardi, mercredi, le projectionniste, il s'occupe d'ingester les films, de les réceptionner, de faire les playlists, les médias vision, gérer les KDM, donc c'est-à-dire les clés d'autorisation pour que le film passe. C'est lui qui gère tout ça. Après, du jeudi au dimanche, hors soirée spéciale, parce que quand on fait des soirées spéciales, il faut lancer le film en manuel. Et puis de toute façon, il faut, au niveau sécurité, qu'il y ait un projectionniste. C'est-à-dire que c'est pas la caissière. On a cru ça au début, tout le monde a cru ça.
Depuis sa caisse.
C'est possible, hein, même moi, de mon iPhone, si j'ai l'appli, je lance le film. Mais
si tout va bien.
Voilà, mais il faut qu'il y ait quelqu'un en cabine. Là, on peut parler d'un autre truc que moi, je trouve super important, parce que ça, je m'en rends compte au fur et à mesure. Un, il y a des bugs. La xénon qui s'allume pas, le volet qui s'ouvre pas. Donc, bon, on intervient manuellement, tac, tac. Après, nous, on a un projecteur, un serveur qu'on a été obligé de le remplacer intégralement. C'est-à-dire qu'il y avait des bugs tous les jours. Rebooter une fois, rebooter deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Rien qui marchait, donc annulation de séance. Le projectionniste, il faisait que ça dans la journée, il était devant le projecteur, donc il y a des pannes. Et dans ces cas-là, contrairement au 35, le projectionniste, il pouvait réparer. Maintenant, avec le numérique, il ne peut pas réparer. Il appelle l'outline et ils font tout en direct, mais ça, c'est fini. Secondo, que ce soit n'importe quel prestataire, ils ont la main sur la bécane, ils savent tout ce que tu fais. Donc, là, par exemple, j'ai reçu un mail. Attention, l'état de vos lampes xénon, donc des lampes. Salle 1, vous avez dépassé de 200 heures. On ne peut plus les pousser. Avant, on pouvait pousser les xénos en 35. Maintenant, on ne peut plus. C'est-à-dire, on peut le faire, mais si on le fait et qu'il y a une merde, le prestataire ne fait pas jouer l'assurance et c'est nous qui payons.
Tous les 6 mois, tu changes ta lampe de
Changer les filtres. Tu es obligé de changer les filtres. Attention, ils le voient aussi. Ils voient tout en direct. Ah non, mais t'es pisté pour un rien. T'es pisté pour un rien, ils se blindent. Et il y a plein de choses, remplacement du liquide frigorifique, tous ces trucs-là, c'est une entreprise de maintenance qui doit le faire, parce que si c'est le projectionniste, de toute façon, quand on ouvre la machine, il le voit.
Bah, je pense que pour les opérateurs, moi comme les autres, enfin, tu maîtrises un métier, et ton savoir-faire se perd, puisque tu passes carrément à autre chose. Bon, c'est pas très grave, puisque tu apprends autre chose. Ce n'est que sur le 35 mm, t'as un rapport à la machine, et tu gères tes pannes, tu gères tes... sauf les gros cas extrêmes, tu peux toucher, quoi. En numérique, tu touches à rien. Tu as un problème, ça s'appelle un bug. Tu éteins, tu rallumes, tu branches, tu débranches. Si c'est autre chose, tu appelles une hotline qui gère pour toi. Ouais, c'est quand t'es un peu dépossédé du truc. Et de ton savoir-faire, c'est normal, tu changes d'outil. Mais ouais, tu n'as accès à rien. Même si tu veux, tu prends un risque d'être un browser ou la hotline qui voit ce que tu fais. Quoi. Et donc, tu fasses gaffe. Donc, si tu veux intervenir dans les trucs à la con, soit t'en réfères à ta hiérarchie pour demander l'autorisation, et elle-même, elle faut qu'elle fasse gaffe à se mettre en porte-à-faux aussi avec l'installateur. L'opérateur n'est plus qu'un vague exécutant, quoi. Oui, puisqu'il n'a pas le droit d'intervenir sur plein de choses. Avant, sur le 35, c'est de la mécanique, c'était un souci, tu te démerdes, même s'il n'y a qu'un élastique, mais tu n'as pas ton truc. Okay. Là, même si tu penses savoir le faire, tu fasses gaffe, tu t'en réfères à ta direction, qui prend le risque de dire oui. Et s'il y a un souci, c'est dans l'installateur qui se retourne contre toi.
Parce qu'il y a des histoires d'assurance avec...
C'est pour ça qu'il va le maîtriser.
Donc toi, tu gères que dalle, t'es en base, tu appelles ton installateur, tu parles à l'outline et tu lui dis, ben, j'ai ça. Soit le mec il y arrive, soit il n'y arrive pas. Parfois, il n'y arrive pas. Et ben, juste pour se faire plaisir, t'as mis 3 potes le soir et tu te projettes un film. En 35 mm, si je veux faire ce soir aussi, je peux. Franchement, je ne le ferai pas parce que je vais aller me coucher. Mais tu joues pas à ça avec le numérique.
Ah, tu peux pas te permettre ça?
Ben, en tout cas, ils le voient.
Ah, c'est l'industrie qui impose, et puis en plus là, ils imposent le 2K, maintenant il y a le 4K qui arrive, et dans 4 ans, je sais pas, alors le 8K, et puis ils vont dire, bah, on décide que tous les gens qui sont en 2K, eh ben,
on, peut-être,
c'est des... Voilà,
ouais,
moi,
si, on connaît un petit peu,
pour le coup, là, je peux pas vraiment expliquer.
On expliquera.
Voilà.
Qualité, continue sur ce.
Mais par contre, voilà, et autant... Ils vont décider, surtout les Américains, dire ah ben finalement tous ceux qui sont en 2K,
oui, le marché,
eh ben on file plus, donc ben il faut changer maintenant, il faut vous mettre obligatoirement 4K. Pas tes plans de campagne, ils sont déjà en 4K. Nous on s'équipe, on est en 2K et on se dit mais dans 5 ans ça se trouve et ça coûte tellement de pognon comme les ordinateurs, il y a un moment faut remplacer. Et tous, hein, on a tous,
là,
tous les,
le cas.
Ouais, tous les, ouais, non mais tous les exploitants, c'est vraiment la grande frayeur. C'est dans 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et à mon avis, dans 10 ans, les toutes petites exploitations, elles vont fermer. Parce qu'elles ne pourront pas se mettre...
C'est ça qui fait...
Moi, je pense. Hein. Enfin, ça me fait assez peur.
Non, un geste. C'est ce qui a écrit sur...
C'est le nouveau. C'est ça qui est bien. Il faut regarder. Il y a le rapport de la CST, un truc sur le numérique qui est super bien foutu. Et à la fin, il y a le lexique. Des nouveaux mots.
Jargon, justement.
Parce que... On dit un geste parce que quand on va dans les playlists, sur le serveur Devidea, ça s'appelle, nous on est Devidea pour faire les shows, on appelle ça maintenant des shows.
La grille, quoi.
Il faut vraiment, il y a tout un langage parce que maintenant pour faire du noir c'est black, c'est qu'en anglais. Donc du coup sur le serveur quand on veut lancer un film manuellement et tous ces trucs-là, là, il y a écrit un geste. Donc maintenant, on dit un geste pour dire enregistrer le film.
Qu'il soit bilingue, en fait, pour l'opérateur de l'avant.
Bon, après, ça, c'est...
Là, ça... Si c'est qu'une histoire du passage à l'anglais, ça va, mais non,
mais
c'est
un...
aussi autre chose.
Et c'est vrai que c'est tout un langage. Et il faut vraiment le savoir, parce que quand on a un problème et qu'on appelle la hotline et qu'ils parlent de trucs, si tu ne sais pas, tu ne comprends rien, quoi. C'est...
Pour l'instant, vous ingérez, et puis on verra, on prendra le temps pour digérer.
Donc voilà, maintenant, pour projeter des films, il faut des clés. Et les clés, c'est les Américains qui les donnent.
Il faut surtout avoir une bonne digestion. C'est un geste, et donc ça peut effectivement, ça c'est possible d'avoir une gastro, en fait, avec des nouveaux... Non, c'est ça, Julien, que tu voulais dire? Non.
Non.
Ah, d'accord.
Non, donc effectivement, les projections sont protégées par des clés numériques et les exploitants reçoivent des fichiers codés, cryptés, qu'ils ne peuvent pas lire comme ils veulent. Donc ils sont faits. Elle parle du doc. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la salle de cinéma Les Variétés à Marseille, donc, qui est une salle indépendante. Donc ils sont équipés en 2K. Il faut savoir que la majorité du parc français, au moment de la campagne de numérisation des salles, au moment où la plupart des exploitants s'équipaient, en Angleterre, ils étaient déjà au 4K. Et les fabricants, ils savaient très bien que le 2K était déjà en voie d'obsolescence parce qu'ils étaient en train de fabriquer les machines qui arrivaient. Mais tout le monde a poussé à la numérisation, machin, et les fabricants ont senti la bonne aubaine. Et les revendeurs aussi qui ont... Parce qu'il y a un système assez compliqué, on va peut-être en parler rapidement, mais peut-être pas trop s'étendre non plus.
Oui, parce que ça va être un peu long. Mais effectivement, il y a des tiers maintenant qui sont au milieu.
Des entre intermédiaires.
Des intermédiaires, ouais.
Ouais. Donc, mais
on, c'est une vague histoire
donc
de
la France, en gros, s'est équipée d'une technologie obsolète au sud des fabricants de matériel qui savaient très bien qu'ils leur fourguaient une génération de machines qui sera obsolète en quelques années. Donc elle parle des coûts, des lampes qui sont à changer très régulièrement, des coûts de maintenance. C'est assez lourd à gérer. Et puis de se sentir,
surtout une non-maîtrise totale de
voilà, tu te sens fliqué par... donc ces tiers qui ont eu plusieurs noms, c'est des tiers collecteurs ou des tiers investisseurs. C'est des sociétés qui sont apparues au moment de la numérisation des salles pour faciliter le passage au numérique des salles. Mais donc, ils proposaient l'équipement et en contrepartie, ils recevaient une compensation. Donc, on voit, elle le dit, pour un écran, ça coûte 60 000 euros de passer au numérique.
Tu viens, chérie.
Il fallait trouver un système pour amortir ses coûts. Donc il y en a qui l'ont fait en totale indépendance, en faisant des emprunts ou avec leurs fonds propres, comme ils ont pu. Les gros réseaux qui l'ont fait parce qu'ils avaient les reins solides et qui ont acheté le matos, qui ont fait leur gestion en mode indépendant. Et ceux pour qui ça a posé le plus de problèmes, c'est les petits exploitants et les réseaux indépendants. Et donc, ces tiers investisseurs leur ont proposé un système où du matériel, en contrepartie, vu que les copies numériques coûtent beaucoup moins cher à produire, une copie 35 mm, avant, c'était 1000 ou 2000 euros. Là, une copie DCP, c'est quelques centaines d'euros, c'est une fraction du prix initial. Donc on s'est dit, la différence, c'est le distributeur qui va la payer, parce que c'est le distributeur qui fabriquait les copies.
Tu viens, chérie.
Ça lui coûte moins cher, donc là, ça s'appelle une taxe sur copie virtuelle, où c'est le distributeur qui paye 450-500 euros, qui sont, dans le cas du tiers collecteur, reversés directement à lui. Donc ça crée un système à plusieurs vitesses qui durera le temps de la transition où tout le parc sera équipé. Mais au moment où il faudra changer toutes les machines, on rentre dans un cycle d'obsolescence programmée qui est courant pour toutes les technologies. Maintenant, où il y a des caméras qui sortent tous les trois mois.
On peut dire que c'est exactement la même chose dans toute la chaîne.
C'est 10 minutes, c'est 60 secondes, multiplié par 10, 600 secondes.
Enquête.
Il nous reste 600 secondes à passer ensemble.
Enquête.
Ce temps est agréable, mais en même temps, le temps nous est compté, car la mort est au travail. 600 secondes, qu'est-ce qu'on peut en faire de 600 secondes ?
Moi, je voudrais déjà remercier Nathalie Hubert, qui est une monteuse qui m'a accordé un peu de son temps aujourd'hui pour parler de ces questions. Ça m'a permis de préparer un peu le terrain de mon intervention de ce soir. Et donc, merci beaucoup à vous.
Et est-ce que tu veux quand même dire quelque chose ? En plus, il reste 10 minutes, 600 secondes.
C'est Julien Gourbet qui...
C'est la rentrée. L'automne est difficile. L'Espagne, la Grèce.
Je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de montage finalement. Parce que finalement aussi, la numérisation des pratiques dans le cinéma, c'est beaucoup venu d'abord par la post-production, avec le montage virtuel sur ordinateur. Donc à l'époque, on tournait encore tout le temps en 35, mais on faisait un intermédiaire numérique, on passait le film sur bande vidéo, en télécinéma. Et en montée à partir de bandes vidéo. Puis finalement, maintenant, c'est exactement le même système, sauf qu'au lieu de numériser des bandes vidéo issues des copies 35, on a directement des fichiers qui arrivent au montage. Mais les logiciels n'ont pas changé et le système est resté le même. Mais ça a changé aussi beaucoup. Ça a été la première révolution numérique, je pense, la post-production, parce que ça a vraiment changé le métier en profondeur, à la fois dans les sensations de travail, parce que une caméra numérique n'est pas si éloignée que ça d'une caméra film. Finalement, c'est le même outil avec une optique et ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus de la mécanique, c'est de l'électronique et du numérique, mais l'objet lui-même reste un outil assez familier pour un opérateur. Qui a les mêmes lumières, mais par contre le métier de monteur, c'est un métier qui a énormément changé avec les outils numériques. Quand on est passé du montage sur pellicule, avec la pellicule entre les mains et le rouleau de scotch et la guillotine pour faire les coupures, à un ordinateur avec une souris, un clavier et des écrans, quoi. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes gestes. Un caméraman qui a une caméra numérique, il sait faire un travelling, il sait faire un porté, il sait faire un panoramique. Les gestes du monteur film ont été vraiment différents assez rapidement avec des outils complètement dont l'ergonomie virtuelle s'est inspirée des pratiques issues de la table de montage traditionnelle, mais sont assez vite éloignées. Donc je pense qu'il y a un terrain à reconquérir là-dedans au niveau des logiciels, dans les interfaces, dans ce rapport tactile qu'on pouvait avoir avec la pellicule. Quand on déroulait des mètres, on avait une sensation du temps vraiment, parce qu'on sait dans la main ce que représente une durée de pellicule en longueur.
C'est un peu la même chose en prise de vue quand même, enfin, pas la même chose, mais en tout cas l'équivalent de la durée, elle a existé entre la caméra film et la caméra numérique qui n'était pas du tout le même rapport à la durée en termes de tournage.
Ben, tu t'es retrouvé avec des cartes mémoire qui avaient effectivement à peu près la même capacité qu'un magasin film, hein, une dizaine de minutes. Mais à part ça, ça n'a pas bouleversé la profession. Et au contraire, ça a permis de tourner, d'avoir des supports beaucoup plus importants, et de pouvoir tourner en continu, d'être plus limité justement par ces capacités des supports. Ce qui a permis par exemple à Sokurov de faire l'Arche russe, quand on a un plan séquence unique où il se baladait avec la caméra, avec un chariot de disque dur derrière, dans le musée de l'Ermitage. Donc non, je ne pense pas, ça n'a rien à voir avec le changement d'outils. par lequel sont passés les monteurs, qui sont passés d'une table où tu pouvais monter debout, avec vraiment... on a beaucoup blagué au Polygone Étoilé à parler de cinéma digital, cet anglicisme qui confond le numérique et le digital. Digital en français, ça veut dire avec les doigts. Et on disait qu'on faisait du cinéma digital pour faire des dossiers subventions, et alors qu'on voulait faire du cinéma avec les doigts, pas du cinéma numérique. Mais y a une possibilité d'évolution vers ces sensations-là, je pense, avec tous les écrans tactiles maintenant qui se généralisent, et dans des interfaces qui peuvent retrouver justement ces sensations de manipuler des images du bout des doigts, littéralement. Donc il y a encore des terrains à explorer en termes d'outils et d'interface entre l'homme et la machine, pour retrouver que le film, c'est du temps, quoi. C'est pas juste des bouts de fichiers numériques dans lesquels on va parcourir sa souris d'avant en arrière. Non, il faut le poser, il faut le lire, il faut le ranger, que les séquences dans un film, ça s'ordonne. Que ça ne va pas être des chutiers avec des numéros de code qui sont générés par la caméra, mais il faut retrouver un peu des sensations de construction de ce qui faisait un peu le côté littéraire et écrit du cinéma, qu'on organise cette narration. On perd un peu la narration avec le numérique.
Je pense que là, ce soir, on a eu tous, c'était un peu douloureux de parler du numérique, peut-être. Parce que c'est associé à une sensation de perte.
C'est pas une souffrance dans le travail.
Pour toi, non, mais pour nous trois qui préparions l'émission, on se demandait comment on allait parler du numérique pendant une heure et demie. Fabrice, alors pourquoi ça t'est douloureux, le numérique? All these wise guys trying to put us down. We gonna bring them on in. Yeah, bring them on home. Mais pourquoi?
J'irai pas le dire.
Et toi, c'est une joie, Julien?
Moi, je suis partagé parce que j'ai vraiment grandi dans un bain mélangé. J'ai eu la chance d'avoir des profs des gens qui m'ont formé, qui étaient vraiment à cheval sur ces deux générations et ces pratiques-là. Donc j'ai vraiment apprécié de me former à la fois à la pellicule, à l'image aussi, hein, parce que j'ai toujours fait de l'image, et même si c'est le montage qui est vraiment devenu mon métier, j'ai toujours eu une pratique de l'image. Moi, j'ai toujours eu une excitation des nouveaux jouets, quoi, hein, quand on met une nouvelle bécane entre les mains, un nouveau logiciel. Ça m'intéresse, quoi. J'ai envie de comprendre comment c'est foutu pour pas être à la merci de l'outil, mais vraiment voir ce que l'outil me permet de faire et ses limites. Et on voit beaucoup des nouveaux outils qui présentent donc ils vont être intéressants parce qu'ils sont pas chers, que c'est un petit appareil photo machin qui est dans un petit sac avec 3 batteries et des cartes mémoire, ou un logiciel qui permet ceci, cela. Mais je ne le vis pas à chaque fois comme une perte de ce qu'il y avait avant ou une fuite en avant.
Non, par contre, on est quand même bien entre les deux, quand même, entre le fait de ne pas avoir assez utilisé la pellicule peut-être par moment, et puis d'être en proie à l'utilisation de la haute définition vite fait maintenant.
Le cul entre deux chaises,
ouais, quand même. C'est en même temps, moi j'ai envie de continuer à utiliser du Super 8. On sait que ça va aussi disparaître. Enfin, je veux dire,
Radio Galère, 23h-3.
Mais bon, voilà, après, non, moi ce qui compte, c'est pouvoir continuer à utiliser tous les supports. Après, moi aussi, ça peut m'exciter. Pourquoi pas d'utiliser le HD, voilà, à condition que ce soit pas une super galère, quoi. Bon.
La meringue s'enfonce dans la glace à la fraise qui fond comme un château sur la plage. Tout s'est fini à l'aube. Il y a du verre cassé sur le sol de la cuisine. Il y avait une fête ici, Maintenant ils sont partis, tous et tous repartis. Des masques écrasés, des cotillons débobinés. Et je reste là, au milieu de tout ça. La guirlande au papier crépon qui pendouille au plafond. Je sais pas si je suis encore lucide, allongé sur le canapé, je fais le bilan. Tiens, t'as oublié ton sweatshirt orange. Il traîne là par terre, sous la table. Je suis juste à côté de ta chaise. Y'avait une fête ici. Maintenant ils sont partis. Tout et tous repartis. Par malheur, y'avait un piano. Ils ont joué chacun leur tour. Pauvre piano qui est tout désaccordé.
Merci à vous. Bonne nuit. Merci à Julien Girardot d'être venu, de nous avoir éclairé de ses lumières. Et ce n'est pas triste. Le numérique est là. Nous sommes là tant que... Nous sommes de chair, tout ira bien. À bientôt sur Radio Galère. Et ça ne se lance toujours pas, du coup, il va falloir dire d'autres choses. J'espère que vous êtes confortablement installés, qu'on vous a intéressé et que la nuit sera douce. Demain. Oh, 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 oh